change mon cœur, Seigneur.
Votre instant de dévotion quotidien.
Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en plus de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 23. Bienvenue à toi, ami auditeur, dans ce nouveau moment de dévotion. Merci beaucoup pour ton soutien, pour ta fidélité. Que l'Esprit de Dieu nous guide aujourd'hui encore, à travers la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous verrons quel genre de maître est Jésus. S'il y a parmi les paraboles une que nous connaissons bien, c'est bien celle des talents. Elle se trouve dans Matthieu 25, versets 18 à 30. Nous voyons l'histoire de trois hommes qui reçoivent chacun une quantité particulière de talents de la part de leur maître. L'histoire nous dit qu'aussitôt que celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, il partit les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui a reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et y régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Il en fut de même avec celui qui reçut 2 talents. S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit, « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai semé et que je ramasse où je n'ai répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais retrouvé mon bien avec des intérêts. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Extrait de la version Tob. Alors, on peut se demander à quoi cette allégorie fait allusion. Si le maître est Jésus, cela nous donne peut-être une image assez dure de ce Jésus. Il n'est pas étonnant, d'après la répartition des sommes reçues, que le texte original dise que le maître a réparti son argent selon la capacité de chacun d'eux. Il les connaissait certainement bien. Ceux-ci devaient gérer les biens habituels d'un propriétaire, terrien ou d'un marchand. Il semble que le maître leur confie des biens supérieurs à ceux dont ils s'occupaient auparavant. Il s'agit en tout cas d'actions qui, pour rapporter, devaient être investies. Car un jour, le maître viendra et demandera des comptes à ses gérants. Ses gérants auraient donc dû tous se sentir honorés, même celui qui n'a reçu qu'un seul. Ils étaient les serviteurs, les employés de ce maître depuis longtemps. Dans quel état d'esprit travaillaient-ils pour lui? Quelle relation avaient-ils? Cette situation exceptionnelle où le maître, lui, montre directement sa confiance à ses employés, va permettre à ces trois hommes de révéler quant à eux qui est le maître pour eux. Les deux premiers gérants apprécient le maître et donc, ils se comportent en tant que dépositaires, plus comme des héritiers ou des associés que comme des serviteurs ou des fonctionnaires. Ils s'occupent avec beaucoup d'amour des biens que le propriétaire leur confie, comme si il s'agissait des leurs, et ils les font fructifier. On peut imaginer la fierté de ces deux ouvriers quand ils apportent non seulement ce que le maître leur avait confié, mais en plus, ce qu'ils avaient gagné. Ils connaissaient leur maître et ils se sont imaginés d'avance sa satisfaction. Le troisième gérant, quant à lui, n'avait pas la même relation avec son maître. Il le traite comme un patron sans plus. Il ne se sent pas du tout solidaire de l'entreprise. Et il traite son chef avec la méfiance d'un médiocre salarié envers un quelconque patron. Sa réaction se situe sur le vieux registre de la lutte des classes. La crainte de se faire exploiter le bloque et le rend amer, l'enfermant dans son raisonnement égocentrique et faux. Car son chef n'est pas celui qu'il imagine. Seule l'acceptation de la vérité pourrait le rendre libre. Le trésor reçu reste pour lui de l'argent étranger. Pour empêcher que le patron ne bénéficie de son effort, il fait de cette fortune pleine de possibilités un dépôt complètement mort. Son attitude montre qu'il connaît mal son patron. Bloqué par la crainte de se faire avoir par celui-ci, il projette sur lui l'image d'un oppresseur, incapable lui-même d'agir avec solidarité. Il ne peut croire en la générosité de son chef. Alors, si nous rapportions cela un peu à nous, on pourrait se poser la question, quelle idée ai-je de Dieu? Est-ce que pour moi c'est un maître dur, impitoyable? Comment est-ce que je considère ma place dans le projet de Dieu? Et surtout, quel bien m'a-t-il confié à gérer? Mais face à la réaction du troisième, le maître ne se défend pas. Il ne discute même pas les opinions de son gérant. Il se limite à lui montrer son incohérence. Il lui dit « Si tu ne veux pas contribuer personnellement à la prospérité de mon entreprise, pourquoi as-tu accepté mon argent ? Ou pourquoi ne l'as-tu pas déposé à la banque pour qu'il me rapporte au moins un minimum d'intérêt ? Tu ne te rends pas compte que ton comportement est inacceptable à tout point de vue. » Voilà comment on pourrait paraphraser les phrases de Jésus. Il pourrait aussi dire « Tu m'as trompé en trahissant ma confiance à notre contrat. Tu as montré que tu es un mauvais gérant, que tu ne portes aucun intérêt à l'entreprise et qu'ainsi, tu lui es préjudiciable. » Et en gros, il lui dit « Allez, va-t'en. » Aujourd'hui, cette allégorie, cette anecdote parle de talent. Mais dans la vie spirituelle, Dieu nous confie des choses. Qu'est-ce qu'il t'a confié, mon ami? Quel est ce talent qu'il t'a donné, au sens propre ou au figuré? Cette parabole nous rappelle que nos talents, peu importe leur nombre, aussi modestes soient-ils, sont tous important pour le Seigneur et pour ses plans. L'importance des responsabilités qu'il confie à chacun de ses gérants varie, certes, mais pas ses attentes envers eux. Le Seigneur s'attend à ce que tous fassent du mieux qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont reçues. L'important n'est pas la quantité reçue, mais ce que l'on fait avec ce que l'on a. Les gérants qui ont reçu 5 ou 2 talents n'obtiennent pas le même gain final, mais les mêmes pourcentages de bénéfices, c'est-à-dire ils doublent la valeur. En gros, ces deux hommes qui ont reçu des talents qu'ils ont fait fructifier, leur habilité est différente. Le produit des résultats est différent, mais d'égal mérite. Mon ami, si notre vision, si ta vision, si ma vision de Dieu a été faussée par de mauvaises expériences ou par l'absence d'une relation sincère avec lui, il sera difficile de s'investir et de prendre des risques, de participer généreusement au grand projet de Dieu pour l'humanité. En somme, toi et moi, les gérants, ne restent pas de simples employés qui travaillent pour un salaire. Ils deviennent des collaborateurs heureux de participer au plan de leur maître. mon ami, aujourd'hui, est-ce que tu désires entrer dans une relation de confiance avec Dieu, même si tu as un peu de mal à imaginer où cela va te mener? Est-ce que tu veux entrer dans la joie du maître comme les deux premiers gérants? La joie que Dieu ressent devant l'attitude de confiance de ses enfants? Si c'est ton cas, demandons-lui ce matin. Prions ensemble. Papa, c'est tellement de bonheur de pouvoir encore une fois être exhorté par ta parole, fortifié par ta parole, car ta parole est la vérité. Elle nous donne la vie, elle nous donne la force d'avancer. Et nous te disons merci pour cette opportunité aujourd'hui. Merci papa parce que malgré notre dignité, malgré Seigneur nos péchés, malgré Seigneur notre séparation avec toi. Alors aujourd'hui papa, nous te demandons pardon, pardon pour ces péchés. Nous te demandons Seigneur de nous laver dans le sang de ton fils Jésus. Purifie-nous papa et ouvre nos yeux. Montre-nous Seigneur ces talents que tu nous as confiés. Montre-nous Seigneur le plan dans lequel tu nous impliques. Tu désires faire de nous des gérants, Père, pas juste des salariés de ton royaume, mais des collaborateurs. Mais parfois, Père, nous sommes trop occupés, peut-être méfiants, peut-être même, Seigneur, que nous ne nous rendons pas compte de la portée de ce que tu nous as confié, ces talents, ces dons, et quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, tu nous montres que ce n'est pas tant la quantité de talents qui compte, mais Père, c'est comment nous le faisons fructifier qui importe à tes yeux. Père, ouvre-nous les yeux, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ce que tu désires pour nous. Aide-nous, Seigneur, à être remplis d'amour pour ce plan que tu as défini pour nos vies. Aide-nous, Seigneur, à être des gestionnaires de ces dons et ces talents. Aide-nous, Père, à les faire fructifier et à les convertir en âme à salut. Nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.
C'était votre instant de dévotion. Change mon cœur, Seigneur. Tous les jours, 8h30, 19h, et tout de suite, en podcast et replay.
Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi.